tout de suite la revue de presse. Claude Askolovitch.
Et Claude, on parle de tatouage ce matin dans la presse.
L'encre qui chante et enchante la peau et qui se décline, savez-vous, tatouage tribal, tatouage à l'ancienne, encre marine ou aigle de motard, tatouage asiatique ou graffiti, tous ces tatouages qui convergent vers la une de la croix qui d'émotion en balbutie son français et mélange l'être et l'avoir, je cite, près d'un français sur cinq a ou a été tatoué. Non, est ou a été tatoué. Ouch, quelle entorse ce jour où Libération poursuit par ailleurs la croisade de linguistes belges contre l'accord du participe passé avec le complément d'objet direct quand il le précède. La faute que la croix a osé, osé e ou sans e par exemple. Mais laissons la faute car le dossier de la croix est passionnant, passionnant comme la peau. Il nous dit que nous avons changé car le tatouage était jadis un signe de dureté sociale. Le tatoué était un marginal, marin, militaire, prostitué, issu du roc de la prison et est désormais une pratique, le tatouage à la mode. Les cadres s'y mettent et les femmes, plus encore que les hommes, le tatouage marque une civilisation de l'individu qui célèbre et transcende son corps. Les nouveaux tatoueurs viennent des écoles d'art. Mes tatouages me rendent plus féminine, dit dans la croix Shannon, que je devine heureuse. Mais le tatouage est aussi parfois une erreur que l'on efface ou une preuve, ne riez pas, une preuve que l'on doit faire disparaître. Un jeune homme nommé Esteban Morillo a ainsi masqué sur son bras la devise « Travail, famille, patrie » de l'État français du maréchal Pétain. Morillo est accusé d'avoir tué à coup de poing un jeune homme de 18 ans, Clément Méric, en juin 2013 à Paris, dans une bagarre qui opposait skinheads d'extrême droite, dont lui, Morillo, est militant antifasciste, dont Clément Méric. Le procès commence aujourd'hui et on lit dans l'Humanité, dans Street Press et dans le site des Inrecuptibles que les tatouages de Morillo ont été récemment enlevés par une ancienne militante, jadis barmaid, au QG des skinheads. La transformation du jeune homme serait donc cosmétique. Le tatouage est aussi parfois une torture. Dans Libération, vous voyez la photo terrible d'un bras grossièrement tatoué à l'encre bleue et sur le dos de la main, une croix gammée. C'est le bras de Khadija Okarou, 17 ans, Doula Ayad, au pied des montagnes du Moyen Atlas au Maroc. Khadija enlevée, séquestrée, violée et que ses tortionnaires ont marqué. Au Maroc, elle symbolise cette jeune femme, toutes les femmes violentées dans une société archaïque. Elle n'a rien fait sous la contrainte. Tout le monde sait que c'est une déviante qui boit et qui a déjà fumé, dit le père de deux jeunes gens accusés et emprisonnés. Ainsi se défendent les hommes dont les fils impriment la haine sur le corps des femmes. Je vois ce matin aussi un tatouage de liberté, une rose sur le cou d'une jeune française aux airs de jeune punkette dans Explicit, journal en ligne qui a rencontré Lison et Célia venus de France pour assister à Göteborg en Suède à un festival rock interdit aux hommes. Vous voyez, un festival rock pour femmes seulement, pour permettre aux rockeuses d'échapper aux agressions de rockeurs imbibés. Et ainsi, au pays de l'émancipation, nous voyons de jeunes femmes heureuses de se sentir libres en échappant à l'autre sexe. Et Lison, la tatouée, me semble une sœur chanceuse de Khadija.
Et on parle de la mort d'un fleuve également dans les journaux.
Au nom si doux pourtant, le Rio Doce au Brésil, dont le Monde raconte l'assassinat le 5 novembre 2015, quand un barrage a cédé qui retenait les déchets d'une mine de fer et a libéré un tsunami de boue toxique jusqu'au petit village de pêcheurs de Regencia à l'embouchure où l'on a ramassé des milliers de poissons morts et depuis la vie s'est arrêtée. Seuls des surfeurs inconscients osent s'aventurer sur les eaux teintées d'orange et les villageois survivent de l'aide que leur fournit le géant de la mine en cause, Samarco. C'est du grand reportage. Dans une grande série que publie Le Monde depuis quelques jours, textes minutieux et photos à la beauté mortuaire signé Samuel Bollendorf, reportage sur les coins de notre planète que nous avons rendu inhabitable. Hier, Le Monde racontait les stigmates de Dzerzhinsky, cette ville russe industrielle empoisonnée de déchets toxiques où les sols sont mous. Elle fut baptisée cette ville du nom de l'inventeur de la police politique soviétique, mais avant s'appelait Rastiapino, la ville des maladroits. Sommes-nous seulement maladroits? La une du télégramme est belle, qui montre une plante de mer fine, fragile et rose, sous ce titre, Le Monde au chevet des profondeurs. Et le journal breton explique l'enjeu des négociations qu'a lancé l'ONU pour faire aboutir un traité qui protégerait la haute mer, les océans au-delà des zones côtières qui regorgent de vie mais que guettent des industriels de la chimie qui veulent transformer des gastéropodes marins en antidouleurs. Autant de catastrophes annoncées.
Il reste toutefois quelques sourires dans la presse ce matin.
Et comme tous les jours, le contraste entre une vie quotidienne innocente et les drames du monde me saute au cœur de lecteur. Et ce matin, je vois des entêtés adorables qui donnent du sens au genre humain en gardant nos mémoires. Je lis dans Sud-Ouest la patience de Georges Perron, 70 ans, retraité du gaz dans les Pyrénées-Atlantiques, qui a retrouvé le nom de 586 Béarnais tombés dans la Grande Guerre et jusque-là oubliés des monuments aux morts. Justice est donc rendu à Germain Daliès-Herrer, né Orthez, engagé à la section des infirmiers militaires comme perruquier-coiffeur à l'âge de 75 ans, nos héros oubliés. Je lis dans la Charente Libre l'immense patience de Guy Troma, ancien maire du village de Hesse, qui a écrit un livre de 400 pages sur ce village situé sur la route de Compostelle. Mais Guy Troma a besoin de souscriptions, 250, pour que l'on sache, que l'on retienne à la postérité l'histoire de Marguerite Chabroux qui fut pendue en 1729 en place publique pour avoir étouffé son bébé adultère, déjà des faits divers. Il y a aussi, j'en termine, chapitre nostalgie dans La Dépêche, une femme aux cheveux flamboyants qui jadis vendait des camions. Elle s'appelle Christelle Siguier, 45 ans, et elle regrette le temps des pin-up. Ces femmes sublimes que des camionneurs affichaient en poster dans leur cabine de pilotage. Elle est, Christine Siguier, 45 ans, Miss Pin-up Occitanie, avec ses robes à petits pois, ses talons froufroutants. Elle y ajoute sa marque. Je suis juste un peu tatouée, dit-elle. On y revient forcément.
Merci Claude pour cette revue de presse.